Exigence de l'ombre, Catulle Mendès. C'était à la Roquette, dans la chambre d'un condamné à mort. Je vous remercie, messieurs. Vous m'avez apporté du papier, des enveloppes, une plume, un encrier. Il laisse passer ces objets sur la petite table en parlant. Je vous remercie bien. Je remercie aussi monsieur le directeur de la prison, puisqu'il m'autorise à garder de la lumière une partie de la nuit. Non, vous êtes trop bon. Je ne jouerai pas aux cartes ce soir. J'ai une lettre à écrire. Cela me prendra un peu de temps et je pense... Il eut un petit rire, presque malicieux, que je n'ai pas beaucoup d'heures devant moi. Allons, bonsoir, messieurs. Dormez bien pendant que j'écrirai. Je crains qu'on nous éveille de bonne heure demain matin. Allons, bonsoir. L'un des gardiens quitta la cellule. Un raclement de lourds verrous s'enfonça dans la muraille. L'autre gardien s'étendit sur le matelas d'un lit de sangle tiré devant la porte. Il ne tarda pas à ronfler, paisiblement. Aucun souci à l'égard du condamné. C'était un petit bonhomme, déjà vieillissant, malingre, aux doigts toujours remués d'un tremblement menu, à la parole conciliante, tout l'air très doux, malgré l'atrocité du crime qu'il avait commis. Jamais on n'avait eu besoin de lui mettre la camisole de force. Sûrement, il se laisserait conduire à la guillotine avec la douceur d'un mouton qui saurait, mais qui voudrait bien tout de même. Dans la cellule blanchâtre et brunâtre, où ne vacillait point la flamme de la bougie, le petit homme, du nez louchant presque la page, grinçait le seul bruit régulier de la plume dans les intervalles du ronflement. Selon l'habitude de certaines personnes méthodiques, il avait d'abord mis l'adresse sur l'enveloppe. « À Monsieur l'aumônier, prison de la Roquette. » Il ajouta cette mention soulignée, « N'ouvrir qu'après ma mort. » Bien, très bien. Maintenant, la lettre. Et il traçait les caractères avec soin, sans hâte ni trouble. Ce menu tremblement dans les doigts lui était habituel. Comme un employé consciencieux qui copierait un rapport posément. Son écriture était très fine. « Monsieur l'aumônier, je vous demande bien pardon d'avoir longtemps retardé, malgré vos charitables insistances, à vous révéler pourquoi je me suis rendu coupable de cet abominable meurtre. Il ne fallait pas que la cause de mon crime fût connue avant que son auteur se trouve hors de portée de toute absolution, de toute miséricorde, car mon salut aurait été une désobéissance. Mais aujourd'hui, dans l'après-midi, ce soir encore, j'ai reconnu à des signes certains que le moment définitif est proche. Même en des instants où, étant donné la place et la hauteur des deux étroites fenêtres, son surgissement semblait bafouer toutes les lois qui gouvernent la figuration des corps sur les murs, même tout à l'heure, dans la pénombre de la cellule, tandis que je parlais à mes gardiens placés non pas derrière, mais devant ce chandelier, elle m'a, par une si nette, si tranchée absence de ce que j'ai encore, notifié la nécessité prochaine de ne l'avoir plus et intimé l'ordre d'une ressemblance parfaite que, certainement, vers le jour, monsieur le directeur de la prison entrera ici, avec d'autres personnes, et m'annoncera que je dois me résoudre à mourir. J'ai donc tout juste le temps d'écrire cette lettre explicative. Ah, oui, c'est très extraordinaire qu'un homme comme moi, pas méchant, pas exalté, tout simple, né de bonnes gens, qui a été bien élevé, qui exerçait un métier tranquille, j'étais, vous le savez, chapelier à Rémy-sur-Oise, se soit rendu coupable, sans haine comme pour le plaisir, d'un aussi épouvantable, aussi raffiné assassinat. Je conçois la stupéfaction de messieurs les jurés, de la cour, des médecins commis à l'examen de ma santé mentale. Je me suis bien gardé de leur découvrir la vérité. On m'aurait cru fou et acquitté, je n'aurais pu satisfaire la destinée. Je comprends aussi l'étonnement que vous avez bien voulu me témoigner, monsieur l'aumônier, car pas plus que les autres, vous ne savez la chose. Moi, je la sais. Par exemple, ce qui est surprenant, même pour moi, c'est que de cette chose, je ne me sois pas aperçu tout de suite. Je veux dire, dès que j'eus atteint l'âge de raison. Était-ce que, enfant encore, c'est-à-dire les yeux et l'esprit frivoles, je ne prenais pas garde à l'étrangeté de mon cas, ou que, peut-être, je la croyais commune à tous les vivants? Non, l'instinct seul eût suffi à m'avertir de l'anomalie qui m'a servi. Faut-il donc supposer que la disposition des lieux où j'avais coutume de travailler, de jouer, la ronde salle de l'école, le petit potager derrière la maison nette de mes parents, ne me permettait point la constatation de cette anomalie? Pas davantage. La lumière joue à travers les croisées d'école aussi librement qu'à travers d'autres croisées. Quant au mur du jardinet, il dépassait de beaucoup la hauteur de mes épaules. Après avoir longtemps, gravement réfléchi sur ce sujet, j'en suis venu à penser que, durant mes puériles années et les premiers temps de mon adolescence, je fus, en ce qui intéresse la conformité aux lois des phénomènes naturels et particulièrement à celles dont le dérèglement m'obligera au meurtre en vue de l'expiation, je fus, dis-je, de tout point, pareil aux autres jeunes garçons. Ce qui devait décider de ma vie ne se produisit que plus tard, à l'épanouissement de la virilité active. Et, en effet, n'est-il pas normal, n'est-il pas logique, même dans la plus inconcevable involution des règles éternelles, qu'une irrégularité impliquant pour une personne, et tel fut mon cas, quelques exigences fatales, quelques inéluctables devoirs ne se manifestent qu'à partir de l'heure où cette personne se trouve en état d'obéir à cette exigence, de remplir ce devoir. Je vous dirai en peu de mots, monsieur l'aumônier, en quelles circonstances m'apparut pour la première fois la nécessité à laquelle j'ai obéi avec horreur, mais avec résignation, et peut-être aussi avec fierté, car n'a-t-il point le droit de s'enorgueillir celui qui, même par un crime, sauve sans doute et l'humanité et la nature de désordre, de désastre incomparable? Comme mon père était peu satisfait de l'éducation que je recevais à l'école de Saint-Rémy-sur-Oise, l'instituteur, un jeune homme très pâle, l'air étrange, venu de Paris, s'occupait peu d'apprendre à ses élèves l'histoire sainte ou les quatre règles, mais le plus souvent, durant les classes, faisait à haute voix des lectures où il était question de la mort et de l'éternité, des lectures où je ne comprenais rien, qui m'effrayait cependant. Et, comme d'ailleurs, il ne faut pas être bien savant pour devenir un bon chapelier, mon père, qui projetait de me céder son fonds, prit, lorsque j'eus 14 ans, la résolution de me garder tout à fait auprès de lui. Je ne revis plus le maître d'école, qui, si j'ai bonne mémoire, dut donner sa démission parce qu'on le jugeait un peu fou. Je fus un apprenti très docile et très content. Je grandissais, pas trop, mais en bonne santé, malgré mon air d'être chétif. Je ne songeais plus du tout aux obscures et troublantes sornettes que proférait le jeune instituteur, l'œil farouche et les cheveux dressés. Mes parents étaient très bons, ils me laissaient jouer dans le jardin ou dans la rue entre les heures de travail. Je mangeais bien, dormais bien, je goûtais déjà, avec plaisir, la tranquillité de la vie qui toujours serait la mienne. Même quand j'eus 15 ans, je n'éprouvais qu'à peine les troubles de la virilité prochaine. Ma mère se réjouissait de me voir si paisible. Pourtant, je dois vous avouer, monsieur l'aumônier, que je ne tardais pas, ma 16e année accomplie, à regarder un peu plus souvent qu'il n'eût été convenable l'apprenti, toute jeunette, presque une enfant encore, qui venait tous les jours chez nous et s'occupait dans l'arrière-boutique à coudre des chapeaux ronds et les visières des casquettes. Cela lui mettait au bout des doigts beaucoup de petits points noirs. mais elle avait de si jolis yeux, si vifs, si luisants, sous des cheveux presque rouges, ébouriffés, et entre les taches de rousseur, sa peau était très blanche. C'était la fille du droguiste, notre voisin. Elle était un peu maigriotte, avec de longs bras dont elle ne savait que faire, qui balaient maladroitement dès qu'elle ne travaillait plus. Cela me charmait qu'elle fût ainsi. Quand, assise de l'autre côté de la table, je la regardais, elle riait, ou bien elle pleurait. En pleurant, elle était plus jolie. Vous me pardonnerez, monsieur l'aumônier, de vous dire ces folies où il y avait peut-être du péché. Mon excuse, c'est que j'espérais bien l'épouser quand je serais établie. Nous eûmes des rendez-vous, les matins de printemps, dans la soleil, le long de l'eau. Là, nous nous tenions par la main, pas trop près l'un de l'autre, et ne disant mot, et ne nous regardant pas. Mais j'entendais bien son souffle, et le mien très fort, très précipité, comme si nous avions été hors d'haleine. Puis, ce fut l'été. J'avais 17 ans. Maintenant, en marchant, je ne me tenais pas si loin d'elle. Je n'osais pas encore lui parler, mais je l'attirais vers moi comme si j'avais voulu lui dire des mots à l'oreille. Elle tournait la tête vers les arbres ou la baissait vers le sable de la venelle. Une fois, brusquement, il y avait dans l'air des flammes et nous allions dans un bourdonnement d'abeilles et de mouches d'or qui étaient comme du feu volant partout. Je la serrais contre moi. Et sans savoir où je les mettais, je mis mes lèvres à sa bouche. Nous nous arrêtâmes, étonnés, ravis, éperdus, et toujours je baisais sa belle petite bouche chaude qui ne pouvait pas se refermer. Comment se fit-il qu'à cette minute même où mon cœur d'enfant s'épanouissait en cœur d'homme, mon regard, sans que mon baiser quittât tout à fait le sien, s'écarta d'elle un peu et considéra nos deux ombres grêles et longues, nettement dessinées sur la pâleur de l'étroit chemin. Je voyais, noirceur à peine, son corps près de mon corps, je voyais nos bras mêlés, je voyais, un peu plus haut que son épaule inclinée, je voyais, un peu plus haut encore, son front et le joli ébouriffement de ses cheveux. Mais tandis que j'aspirais son souffle, je ne voyais pas, je ne voyais pas sur la pâleur du chemin mon visage à moi, je ne voyais pas mon front, je ne voyais pas mes cheveux, mes vraies lèvres frôlaient ses lèvres, mais au-dessus du cou, mon ombre n'avait pas de bouche, ni de front, ni de cheveux, mon ombre n'avait pas de tête. Il me serait difficile, monsieur l'aumônier, d'exprimer à quel point je fus troublé par cette découverte que mon ombre n'avait pas de tête. Je me précipitais vers l'endroit de la route où tout à l'heure s'interrompait l'image, supposant qu'il y avait là quelque brusque crevasse dans laquelle le chef avait pu disparaître, coupé par le bord. Non, pas de creux. Un terrain lisse et continu. Et plus loin, devant moi, s'effilait mon ombre décapitée. D'un effroi instinctif, je portais mes mains à mes joues, à mes tempes, je touchais encore ma peau, charnue, poilue, vivante. Je vis sur la route la noirceur de mes paumes, tâter le contour absent de rien. Je fis, monsieur l'aumônier, une maladie qui me tint 50 jours au lit. Entrée en convalescence, j'ouvrais tout grand des yeux égarés et je demeurais obstinément taciturne. On devait se demander si je n'étais pas, à cause du mal, c'est une fièvre typhoïde que j'avais eue, devenu fou ou imbécile. Ni l'un ni l'autre. Je possédais toute ma raison, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à mon image inachevée. J'y pensais avec peur, avec rage, avec vertige. J'avais à la fois une frissonnante épouvante et un enragé désir de savoir si, après ma maladie, la chose était dans le même état qu'auparavant. Peut-être, aujourd'hui, mon ombre avait-elle une tête? Oh, comme j'aurais voulu qu'elle en eût une! Comme je craignais qu'elle n'en eût pas! La curiosité triompha enfin de l'appréhension. Un matin, que j'étais seul dans ma chambre, assis en un grand fauteuil de valétudinaire, je me dressai lentement entre la croisée et le mur. Je me tournai peu à peu. Au-dessus du dossier, les épaules, le cou, pas autre chose. Je retombais évanoui. Pendant bien des jours, bien des semaines, bien des mois, je vécus très morose, braquant des yeux fixes qui inquiétaient ma mère. Vraiment, on ne saurait se faire une idée, à moins de les avoir éprouvés soi-même, de l'inquiétude proche de l'angoisse, de la gêne prolongée en torture que peut causer, dans les premiers temps surtout, chez un homme un peu sensible, la persuasion, à chaque instant corroborée par l'expérience, que son ombre n'a pas de tête. Je ne sais pas si on ne s'accommoderait pas plus volontiers de n'en avoir pas soi-même, car en ce cas, pour se tenir l'esprit en repos, il n'y aurait qu'à ne pas se vouloir toucher le visage, ni le crâne, qu'à éviter soigneusement les miroirs. On finirait peut-être par oublier que l'on est acéphale. Mais le moyen de se soustraire, à moins de vivre toujours dans l'obscurité totale, à l'apparition de son corps sur la muraille, ou le parquet, ou le trottoir. Pour moi, je souffrais d'autant plus que je n'osais révéler à personne la singularité de mon cas. Avouer à mes parents ou à des amis, mon tourment eût été sans doute moins cruel. Mais cet instinct, j'ai compris depuis combien il avait raison, cet instinct, me conseillait de me taire, m'avertissait que je devais tenir secrète la dérogation aux règles naturelles qui se produisaient en ma personne, ou du moins en le semblant incomplet de ma personne. Ce qui prouve bien que je devais la tenir telle, c'est que, par une antinomie où s'affirmait une volonté supérieure et mystérieuse, je restais seule à m'en apercevoir. Jamais aucun être vivant n'a paru surpris en voyant, à côté de son ombre qui avait une tête, la mienne qui n'en a pas. C'est donc que tout le monde, par suite d'une illusion nécessaire, lui envoyait une. Et cela a été une affaire entre moi et quelqu'un. D'ailleurs, grâce à l'accoutumance que l'on doit enfin au temps et au retour fréquent des mêmes faits, mon anxiété devint peu à peu moins pénible. L'étonnement s'émoussa d'abord, puis la peur de ce coup qui ne portait rien. Mon père, mort dans l'année qui suivit le décès de ma mère, je dus m'occuper, après la distraction que m'offrit ma double douleur, à mettre de l'ordre dans nos affaires commerciales assez embrouillées. Pour conserver la clientèle, je dus faire des visites, publier des annonces dans l'Indépendant de Saint-Rémy-sur-Oise. Puis je me mariais précisément avec la petite apprentie, fille de notre voisin le droguiste, devenue une grande et belle personne. J'eus des enfants, deux garçons et une demoiselle. Tout cela me divertit des troublantes pensées. Je n'en gardais qu'une hésitation dans la parole, qu'une restriction dans les gestes, conforme du reste à l'amabilité timide de mon caractère. J'en vins à ne presque plus prendre garde à l'anomalie dont j'avais tant souffert, ou bien je la considérais sans trouble. Il m'arrivait même de la traiter avec familiarité et de bonne humeur. Une fois, je m'en souviendrai toujours tant ce fut drôle, une fois, j'essayais des chapeaux de soie ou de forme au propriétaire de l'hôtel des Trois Empereurs, ne sachant où poser, entre la table et les chaises encombrées, l'une de ses coiffures beaucoup trop petite pour la tête de mon chaland, je la mis sur la sienne. Et alors, je me tordis de rire, littéralement, je me tordis. Et pourquoi ? Parce que je voyais sur le mur l'ombre du chapeau, si étroit pourtant que le crâne d'un enfant n'y fût pas entré sans peine, touché à même de ces bords plats qui vacillaient l'ombre de mes épaules. Je vous assure, monsieur l'aumônier, que c'était très comique. Vous n'auriez pu vous empêcher de vous tenir les côtes, malgré la gravité de votre saint caractère. Et à l'infirmité de mon image, je devais aussi une joie. C'était quand, les dimanches d'été, après la boutique fermée, j'allais me promener dans la campagne avec ma fille et mes deux garçons. Comme ils étaient déjà grandelets et que moi, je suis assez petit, nos ombres devant nous étaient presque de la même taille à cause de la tête de moins. Et cela me faisait plaisir. De sorte que j'aurais poursuivi et achevé paisiblement une très heureuse vie, à moins que je n'eusse été, moi aussi, la victime du désastre, peut-être universel, dont j'ai, grâce à Dieu, sauvé l'humanité et les mondes, si l'hiver de l'année où nous sommes n'avait présenté des caractères anormaux, très inquiétants, qui donnèrent beaucoup à penser à toutes les personnes douées d'une saine intelligence. Dès le 15 de janvier, je suis certain, monsieur l'aumônier, que vous en avez gardé mémoire. Un soleil que même en juillet on n'est pas accoutumé à voir si ardent, un soleil qui aurait bien pu exalter une cervelle moins racise que la mienne, sécha les champs et les routes, but les rivières, força de verdir les arbres et les roses de s'épanouir. De longs îlots de sable comme des dos jaunes de bêtes surgissaient d'entre la nappe amincie de l'eau et, un jour, je vis le pommier de la cour tout blanc et rose de 1000 petites fleurs. Certainement, jamais, ni à Saint-Rémy-sur-Oise, ni en aucun pays du monde, on n'avait observé une si étonnante interversion saisonnière. Je dus approuver ma femme le matin où, en regardant par la fenêtre le ciel d'où pas un flocon, pas une goutte d'eau depuis un mois n'était tombée, elle s'avisa de dire « Bien sûr, il faut qu'il y ait quelque chose de détraqué dans le monde. » Cette parole ne m'étonna point, mais elle m'émut singulièrement. Et comme, à cette minute même, mon ombre sans tête se haussait le long du mur, je répétais, presque sans voix, entre mes lèvres que je sentais trembler, « Oui, quelque chose de détraqué. Il y a quelque chose de détraqué dans le monde. » Je mentirais, monsieur l'aumônier, si je vous disais que, dès ce moment, s'établit en moi, entière et nette, la perception de la connexité qu'il pouvait y avoir, qu'il y avait réellement, comme je l'ai bien reconnu plus tard, entre le prodige de l'hiver estival que nous subissions et celui de mon image incomplète. Non. Cette connexité ne m'apparut pas tout d'abord en son évidence, et encore moins le rapport de cause à effet entre celle-ci des deux anomalies et celle-là. Mais comme on verrait à peine des fils de la Vierge tendus d'un côté à l'autre de la route dans un crépuscule qui se fera de plus en plus lumineux, des attaches, me semblait-il, si légères, si tenues, si vagues, plutôt devinées que constatées, reliaient les deux phénomènes. Oui, je sentais que je n'étais pas étranger à ce qui se produisait d'étrange, et que la transgression en moi d'une loi naturelle correspondait peut-être, mystérieusement, à la transgression aussi d'une autre loi dans la nature. Cependant, monsieur l'aumônier, la préoccupation, d'ailleurs très vague, incertaine, posée à peine, que l'acéphalie de mon ombre n'était point sans rapport avec l'irrégularité d'un hiver aussi ardemment estival, ne tarda pas à se dissiper à mesure que la saison, vaincue par l'éternelle loi, se réduisait à sa température normale. Et je pense que rien de semblable ne m'aurait jamais plus hanté l'esprit si, assez longtemps après l'évanouissement total de cette idée, vers les premiers jours d'un mois d'avril, les journaux n'eussent relaté, avec beaucoup de détails, l'imprévu et épouvantable cataclysme qui avait bouleversé l'île de Java et failli la détruire complètement. Ce fut, au dire des rares survivants du long désastre, plus d'une semaine d'une horreur sans pareille. Parmi un effroyable et incessant fracas de tonnerre, en des ténèbres où ne se levait plus le soleil et qu'illuminaient les seuls éclairs, des montagnes s'abîmaient dans la terre tout à coup crévassée. Des monceaux de rocs et de métaux en fusion surgissaient des lacs ou des plaines, montagnes un instant, bientôt englouties en des profondeurs ouvertes. Tandis qu'une immense et mince nappe torrentielle, non pas d'eau, mais de lave, se ruait par toute l'île, semblable à une faux démesurée, et, tranchant tout, les collines, les forêts, les maisons, laissant derrière soi des gerbes de ruines. Inversion formidable de toutes les règles qui régissent la matière. On vit, emporté d'un vent qui ne venait pas du ciel, s'envoler des roches énormes. On vit, alourdi d'un poids inconnu, s'ébouler des essaims de colombes et de cygnes. Le contraire triomphait dans le tohu-bohu de la fin du monde, d'un monde restreint, moins qu'un continent, d'un monde néanmoins. Et les habitants de toute notre terre, sans concevoir pourtant quels signes leur étaient donnés, s'étonnaient de ce bouleversement et frissonnèrent. Moi, je le compris ce signe, cet avertissement. Je compris que le destructeur, celui qui fut au commencement le créateur, s'essayait par cette étroite ruine à l'universelle ruine, que cet effondrement partiel du Nil était l'ébauche de la catastrophe totale des univers. Mais pourquoi ce signe était-il donné précisément à cette heure? Pourquoi était-ce justement en l'âge où je vivais que s'affirmait imminente la dérogation à toutes les règles qui, si longtemps, avaient dirigé et maintenu l'œuvre des six jours? Pourquoi la fin du monde était-elle proche, moi, vivant? Alors me revint plus précise, plus pressante, avec une urgence inéluctable, la pensée que naguère avait fait naître en moi l'hiver étrange, plus chaud qu'un été, et, après de longues méditations, souvent pénibles, j'acquis cette certitude. Le monde va finir parce que mon ombre n'a plus de tête. À présent, l'évidence de cette proposition m'apparaît si parfaite, monsieur l'aumônier, que je croirais faire injure à la perspicacité de votre intelligence en insistant longtemps sur les raisons qui me détermineraient à l'admettre. Un homme instruit comme vous êtes doit comprendre tout de suite ce que j'ai mis beaucoup de temps à percevoir, moi, simple d'esprit. Tout se tient dans la nature. Rien ne s'y désordonne que tout ne s'y ébranle. L'ensemble des choses existantes peut être considéré comme un gigantesque château de cartes. Le prolongement presque infini de sa durée a fait croire à sa solidité. L'illusion des hôtes en l'éphémère demeure. Retirer une seule carte, tout s'écroule et s'éparpille. Pour parler plus directement, un seul fait détourné de son accomplissement normal, un seul point d'appui retiré à l'unique et multiple équilibre, une seule loi transgressée en l'ordre universel peut impliquer, que dis-je, implique nécessairement la dislocation de tout l'énorme édifice. Et ma tête sans ombre, c'était la chute de tout dans rien. Dès que cette conviction fut établie en mon esprit, je devins la proie d'une affreuse et incessante mélancolie. Non point parce que je songeais à ma propre vie bientôt précipitée en le commun désastre. Non point parce que je songeais à ma femme et à mes enfants destinés au plus abominable trépas, bien que j'eusse de l'amitié pour moi-même et pour eux dans toute la tendresse que peut contenir un cœur d'époux et de père, un souci plus général, plus largement humain, m'alarmait. Non. L'intérêt personnel n'était que la moindre cause de ma douleur. J'avais de la pitié pour toute la terre si belle, pourtant d'être heureux d'y vivre. Et quoi? Cela était vrai, cela était certain. L'aurore ne sourirait plus à la mer si bleue et si douce, à la plaine si verte et si fleurie. Il n'y aurait plus de soleil puisqu'il n'y aurait plus de ciel, il n'y aurait plus d'étoiles puisque la nuit elle-même ne serait plus. Ah! Mon Dieu! Dire qu'après l'heure épouvantable, les oiseaux ne chanteraient plus dans les arbres évanouis, que nulle part, il ne fleurirait plus de roses. Et tant d'hommes et de femmes qui s'aimaient cesseraient de s'aimer. Les plus hautains projets des ambitions glorieuses ne s'achèteraient même plus en la pourriture qui suit les funérailles. La veille de l'universel désastre, des fiancés, lui 20 ans, elle 16, échangeraient encore des promesses. Une immense pitié pour toutes les choses et pour tous les vivants me poignait sans relâche le cœur. Comme j'avais toujours les cils mouillés de larmes, on disait autour de moi qu'un affaiblissement de mes glandes lacrymales était la cause de ces pleurs lents, grossissants, qui tremblaient. Non, je pleurais à cause de la fin du monde. J'éprouvais aussi je ne sais quel remords. Certes, ce n'était pas de ma faute si l'effrayant cataclysme était si prochain, mais enfin, c'était en moi, si peu coupable que je fusse, que se produisit le premier signe et la cause du désastre de tout et de tous. Un remède. Y avait-il un remède au mal si menaçant? La pitié m'imposa la pensée qu'il y avait peut-être un remède. Le monde allait périr parce que la loi qui le régit avait été rompue en moi, parce que mon ombre n'avait pas de tête. Je me demandais s'il n'existait pas un moyen de donner une ombre à ma tête. Ce résultat atteint, toutes les choses nécessairement seraient rétablies en leur ancien ordre, et les univers continueraient de vivre. Je ne puis vous dire, monsieur l'aumônier, car mes idées à ce sujet sont un peu confuses. Combien de temps j'employais à inventer quelques stratagèmes propres à réparer l'anormalité de ma figuration sur le mur. Je me souviens seulement que, plus d'une fois, je me masquais de plusieurs masques très larges, très sombres, espérant que plus de noirceur, que plus d'opacité interromperait peut-être la lumière. Hélas, pas plus que mon visage, les masques de mon visage n'avaient d'ombre. Dieu, qui sans doute avait pris en miséricorde et les terres et les hommes, m'envoya une inspiration, dont je le remercie à genoux. Pour que le péril fût écarté, actuellement du moins pour que tout fût remis en l'état exigé par les lois naturelles, il n'était pas nécessaire, comment n'avais-je pas pensé plutôt à cela, que mon chef apparût sur le mur. Il suffisait que mon ombre fût pareille à moi-même. Eh bien, si je cessais d'avoir une tête, si d'une façon ou d'une autre je cessais d'avoir une tête, mon image ne serait plus en désaccord avec ma forme, la règle universelle cesserait d'être violée et l'éternité de la vie naturellement suivrait son cours. Je vous assure, monsieur l'aumônier, que cette idée m'étant venue, je poussai un cri de joie. L'humanité était sauvée. Je n'hésitais pas une minute à saisir mon rasoir et debout près de la fenêtre, devant l'étroit miroir, sans songer au désespoir de ma femme, de mes enfants, en deuil derrière le char funèbre, je m'apprêtais à me couper le cou. Mais non. La séparation du chef d'un tronc ne pourrait être complète, tentée par ma main forcément hésitante, dont une horrible torture atténuerait l'insistance. Je ne pouvais être décollé utilement, c'est-à-dire totalement. Je ne pouvais devenir tout à fait ressemblant à mon ombre que par l'aide méthodique, tranquille, comme mécanique de quelqu'un qui agirait sans passion et sans douleur. Le bourreau seul pouvait me faire parfaitement pareil à mon image sur la muraille ou sur le chemin. Le bourreau seul pouvait me donner la joie de soustraire au néant l'universelle vie. Oh, admirable espérance! Mon cadavre, si on le dressait pareil à son ombre! Mais on ne guillotine que les pires assassins. Ah, monsieur l'aumônier, je les aimais tant, mes enfants, ma fille surtout. Je l'aimais si tendrement, si fièrement. Elle était très jolie. Quand nous sortions ensemble, les regards des gens m'enorgueillissaient. Elle était blonde, avec des petits cheveux sur le front. J'avais longtemps hésité à la marier, parce que j'étais heureux de l'avoir auprès de moi. Pourtant, le mois suivant, nous devions célébrer les noces. Elle aimait son promis. Il m'avait juré qu'il viendrait souvent me voir, que l'on ne mettrait pas en nourrice à la campagne les enfants qu'ils auraient bientôt. Les petits resteraient à Saint-Rémy-sur-Oise. J'irais tous les matins, c'était convenu, chez mon gendre pour voir s'ils étaient bien portants pour leur apporter d'abord des hochets, ensuite des joujoux. Et ma femme, un peu taquinée, bonne femme au fond, était très contente de cet arrangement. Nous nous disions... Eh bien, vieux, nous ne serons pas tout seuls. Les garçons reviendront de Paris, se marieront près de nous. Cela fera une famille pas pauvre, heureuse, gaie. Les soirs, le salon du premier étage sera à peine assez grand pour contenir tout ce monde qui rira, qui s'amusera, qui racontera des histoires. Et nous serons bien contents, tous, tous. Ah, monsieur l'aumônier. Je ne me repens pas de mon inutile barbarie. Mais c'est pourtant bien épouvantable qu'il m'ait fallu, en les tuant, faire tant de mal à ma femme et à ma fille, pour être sûr qu'on ne m'enverrait pas au bagne, pour être sûr qu'on me couperait le cou, que mon ombre aurait enfin raison, et que le monde ne finirait pas, et que longtemps, longtemps, il y aurait encore des fiancés et des roses.